Je n'ai jamais réussi, alors ça c'était mon rêve, mais il me fallait 1000 mètres carrés. Bon, c'est pas évident de trouver 1000 mètres carrés pendant plusieurs mois, c'est pas évident. Ouais. Bon.
C'est le projet aussi, nous jeunes, enfin c'est les livres graphiques pliés de ces pages.
Alors ça c'est un projet qu'on continue.
Oui.
C'est on a fait, nous
pour des
jeunes.
C'est une série de journaux réalisés par des jeunes, c'est ça.
Voilà. Hein. C'est ça dont je parlais, qui s'appelle, voilà. Ça s'appelle Nous Jeunes. Il y a aussi, en dehors des Nous Jeunes, on a fait nous les vieux, ou nous les anciens plutôt, nous les anciens, et on avait ça avec des EHPAD. On allait voir les EHPAD et on leur disait, attendez, vous avez des choses à raconter. Eh bien, racontez-les. Eh bien, ils se prenaient piqué au jeu. Il y en avait qui étaient dessinés bien. Enfin, mais évidemment, ils ne sont pas morts à 80 ou 90 ans. Bon, voilà. Mais c'est difficile. Il faut financer. C'est pas vendu.
Ouais, ouais.
C'est pas diffusé. Donc, il faut trouver le financement. Bon, je ne fais pas de dessin. C'est difficile.
Oui, c'est difficile.
C'est difficile.
Alors, ma dernière question, Henri Dougier, c'est un peu, quelle serait... Alors, voilà, la dernière... Mon souhait, mon seul souhait, est qu'à l'heure de ma mort, on se retourne sur ce que j'ai fait et que l'on dise, merde, quand même, ce n'était pas si mal. Il a pris des risques, il a tenté des choses, ce Dougier. Henri Dougier, quels seraient les conseils que vous pourriez donner à un jeune éditeur qui commence l'aventure qui vous a passionné toute votre vie?
Ah, mais il ne se pose aucune question. Il faut qu'il ait une idée, quand même. Il faut qu'il ait une idée. Bon, c'est gênant. Mais il ne faut pas qu'il se pose la question de l'argent, si possible, parce que le champ de l'édition, c'est que ce n'est pas très cher à faire en impression. Un livre comme celui-là, vous le tirez à 2000 exemplaires, il vous coûte, mettons, 2500 euros. C'est pas une somme colossale. Ouais. Donc, en équipe de copains ou de famille, on peut trouver les 10, 20 000 euros qui permettent d'asseoir une petite boîte et on démarre tout petit. Un bouquin, deux bouquins, mais bien choisi, bien fait, bien. Et puis ensuite, voilà, par progression, on a démarré avec 4 bouquins trimestriels. La chance qu'on a eue, c'est de jouer à l'époque sur ce réseau abonné et vendre les librairies. Ça nous a aidés. Cette formule-là. Aujourd'hui, je n'ai pas ça, je n'ai pas l'abonné.
Non. Non, mais vous avez toujours des projets.
Mais j'ai toujours des projets, c'est vrai. Mais je me pose la question d'un jour, il faut bien que. Oui, bon.
Ouais.
Il y aura une fin.
Mais en tous les cas, il n'y a pas. On a l'impression, Henri Dougier, il n'y a pas de point final avec vous. Hein. C'était important, ce livre, pour vous, je pense.
Ben, c'est important aussi pour dire à mes enfants, pour m'excuser. Honnêtement, j'ai fait en me disant qu'il fallait bien que je dise quelque chose. Je l'ai envoyé il n'y a pas longtemps, même après la sortie en librairie. Je n'osais pas presque le redonner. Je leur ai dit voilà, parce que je vous ai quelque part un peu abandonné sur la route. Ils sont tous très bien débrouillés, hein, donc il n'y a pas de souci. Donc ça, ils sont bien débrouillés. Mais quand même, je me rends compte qu'effectivement, ils ont eu un père absent.
Mais un éditeur présent.
Un éditeur présent. Alors, est-ce que l'un compense l'autre? Est-ce qu'ils peuvent être... Je ne sais pas.
Bon. Bah, écoutez, merci à vous, Henri Dougier, pour ce livre, La quête éperdue d'un éditeur impatient, amoureux du vivant et du beau. Ça vient de paraître aux ateliers Henri Dougier. Merci à vous.
Bravo. Merci infiniment pour votre écoute.
Merci.
Un démontreur de vertu vient de s'arrêter pour boire. Devant les bûchers, les prophètes ont crié, brûlé tous les étendards. Avec les mots qu'ils disaient sans comprendre, on leur a fait des linceuls pour s'étendre. Et moi qui étais venu là pour les entendre, j'ai compris qu'il était tard, je suis rentré. Mais les plombiers venaient de piéger ma chambre à l'hôtel de la déroute. Et c'est le diable en personne qui est venu m'apprendre à payer le prix que ça coûte. Oh, Chiquita, Chiquita, laisse-moi dormir dans tes bras. Y a les pantins de l'apocalypse qui ont voulu me faire voir trop d'éclipses et j'ai froid. Chiquita, Chiquita. Près des anges aveugles au coin de ta rue, y a l'homme en gris qui dit rien. Il regarde les néons qui réchauffent les statues des philosophes aux yeux peints. Derrière l'église, il guette un air d'harmonium. Dans sa valise, il cache un vieux métronome. La pauvre Élise lui dit, c'est tout ce que tu me donnes. Et y a personne ici pour lui dire son chemin. Alors il me demande si c'est encore loin, l'hôtel de la déroute. Et moi mystérieusement je lui réponds, tu sais le prix que ça coûte. Chiquita, Chiquita, laisse-moi dormir dans tes bras. Y'a les pantins de l'apocalypse qu'on voulait me faire voir trop d'éclipses et j'ai froid. Cloche de la mission qui résonne dans ton cinéma. Tu maudis tes passions, tu dis qu'on change rien tant qu'on se change pas. Quand je t'écoute, j'entends que des mots d'ordre. Quand je te touche, tu dis pas de désordre. Quand je dis j'ai pas de camp, tu veux me mordre. T'as jamais pu accepter mon chaos. J'arriverai bien avant toi à l'hôtel de la déroute. Moi je sais pas très bien ce que ça prouvera, faut toujours payer le prix que ça coûte. Chiquita, Chiquita, laisse-moi dormir dans tes bras. Y'a les pantins de l'apocalypse qui ont voulu me faire voir trop d'éclipses et j'ai froid. Chiquita, Chiquita.
Bonjour, vous êtes sur Radio Libertaire 89.4, la radio sans Dieu, ni maître, ni nationalité, pour une nouvelle émission de « Et pourtant, elle existe, cette littérature », émission consacrée à la littérature prolétarienne et animée par des membres du Cercle culturel de littérature ouvrière, paysanne et sociale, le CLOPS, et animateur également de la revue Fragments, qui émane de notre association. Alors, cette émission du 21 septembre a donc été enregistrée exceptionnellement pour aujourd'hui. Alors voilà, aujourd'hui au sommaire, alors nous avons tout d'abord, comme d'habitude, Frédéric du groupe Commune de Paris de la Fédération anarchiste. Et à côté de lui, dans le studio, nous sommes trois. Michel du CLOPS, hein, du Cercle de Culture, Littérature, Ouvrière, Paysanne et Sociale, moi-même. Et nous avons un invité qui est déjà venu dans cette émission, je crois que c'était la première, Thierry Maricourt, qui est écrivain, libertaire, membre également de la rédaction de la revue de Fragments, et avec lequel nous aurons un entretien qui est consacré à la parution de son dernier ouvrage, Une rage de lire, le jeune Michel Dragon, qui est publié aux éditions de L'Échappée. À la suite de cet échange avec Thierry, Michel nous présentera un mouvement des années 50-60, un mouvement artistique qui s'appelle le mouvement Fluxus, Art. J'espère que je l'ai bien prononcé, parce que personnellement, je ne connaissais pas, mais dans lequel on va retrouver un certain Michel Dragon en tant que critique d'art, et on voit que, à la fois, l'activité de Michel Dragon, c'était évidemment un travail d'écriture, de littérature, mais aussi un intérêt et une approche artistique de la peinture, et des différentes formes, ainsi que de l'urbanisme. Voilà, donc c'est un peu le sommaire de notre rencontre. Alors donc, nous avons parlé ici, déjà à plusieurs reprises, de l'itinéraire de Michel Dragon, notamment l'an dernier, puisqu'il y avait eu une exposition au musée d'histoire vivante de Montreuil, qui lui avait été consacrée, et nous avions invité, à l'époque, Sarah Matari, qui avait coordonné cette exposition. Et nous, d'ailleurs, cet entretien que nous avions eu sur Radio Libertaire avait fait l'objet d'une reprise dans la revue de Fragments, puisqu'il y avait eu un écho assez significatif à cet entretien. Aujourd'hui, donc, c'est à la jeunesse de l'auteur de la mémoire des vaincus, hein, que nous allons évoquer avec Thierry Maricourt. Thierry Maricourt, qu'on présente plus sur Radio Libertaire, je pense, qui a animé plusieurs émissions et plusieurs présentations de livres à la librairie Plubico. Alors, en premier lieu, Thierry, pourquoi cette approche? Est-ce que c'est parce que l'enfance est un marqueur indélébile de ce qu'on devient et de ce qu'on fait plus tard?
Alors, oui, forcément. Enfin, l'enfance, ça nous marque. Enfin, ce qu'on vit durant les toutes premières années, c'est pas du tout anodin. C'est en général, alors que ce soit des choses heureuses ou des choses plus difficiles, ça peut donner un sens à la vie future. Bon, en ce qui concerne Michel Dragon, c'est... Enfin, moi, avant de parler de lui, avant d'essayer de retracer son discours, son parcours, j'ai voulu comprendre comment... qu'est-ce qu'il y avait dans la tête d'un tout petit gamin qui l'optait comme ça très très tôt pour la chose écrite, pour le livre, pour éventuellement la littérature, alors qu'il aurait pu, comme les autres gamins de son âge, courir dans les rues à Fontenay-le-Comte où il a vécu tout jeune. Comment ça se fait que dès qu'il y avait un bouquin, il l'attrapait et plongeait le nez dedans? Voilà, qu'est-ce qu'il y avait en lui qui a fait que les bouquins ça a pu donner un tel sens à sa vie? Et puis c'était pas lire pour lire, c'était pas ça a jamais été ça, lui. Ça a jamais, c'était lire pour comprendre aussi le monde, pour comprendre sa place au monde et lire avec un regard critique aussi. Donc voilà, avant même de retracer son parcours, j'ai voulu essayer de comprendre ce qu'il pouvait y avoir dans la tête d'un gamin comme lui.
Et avant de, même on pourrait dire, avant de se pencher sur cette jeunesse, toi-même tu as, je veux dire, rencontré, fréquenté un certain nombre de fois Michel Dragon au préalable, ce qui peut expliquer aussi ta démarche et ton intérêt pour cet écrivain.
Oui, j'ai découvert Dragon moi très très tôt. En fait, c'est pas du tout un hasard si je me suis intéressé à Michel Dragon. Et avant lui, je m'étais intéressé à Henri Poulaille, à son parcours, à son œuvre. Je crois que Poulaille, Dragon et moi, on a des points communs. Enfin, un parcours d'autodidacte, alors même si le fait d'être autodidacte a évolué au fil du temps, ce que c'était pour Poulaille, c'était plus que c'était pour Agon, et ce que c'était pour Agon, c'était pas non plus que c'était pour moi, les choses ont changé, mais je crois que tous les trois, on a été des gamins avec des yeux grands ouverts sur le monde, et comment comprendre ce monde, le plus accessible pour nous, c'était prendre des bouquins, éventuellement de la presse aussi, et puis essayer de tout comprendre avec ça.
Il y a aussi peut-être un point commun, dans l'intérêt de la lecture que tu évoquais chez Ragon, qu'on retrouve chez Poulaille, c'est qu'il y a aussi une personne qui sont des personnes, deux auteurs, qui, enfants, sont confrontés à la solitude. Il y a l'absence du père chez les deux, qu'on retrouve. Je dirais, est-ce que chez Poulaille, par exemple, la lecture qui fait du vivant même de son père, comme après Ragon, son père disparaît, est-ce que c'est pas aussi un refuge par rapport à une absence?
Bon, alors ça c'est de la psychanalyse, hein, mais sans doute... sans doute que l'absence du père a joué. C'est différent pour l'un et pour l'autre. Chez Poulaille, Poulaille a connu son père jusqu'à ses 13 ans, quoi. Et il raconte dans ses bouquins, quand il se met en scène avec le personnage de Louis Magnieux, qui est Henri Poulaille, que dans l'appartement où il vivait, il y avait une grande malle noire, et puis interdiction d'ouvrir la malle. Et en fait, bien sûr, quand c'est interdit, on essaie quand même de le faire. Et Poulaille a jeté un œil dedans, et c'était plein de bouquins. Alors, c'était Kropotkin, c'était Jean Grave, c'était Charles Malato, tous ces gens-là, Louise Michel, tout ça. Et ça a été la première bibliothèque pour Henri Poulaille. Ça lui a donné envie de continuer à lire. Michel Ragon, ça a été autre chose. Effectivement, il a très peu connu son père. Son père était militaire en Asie, et puis il n'était pas là, donc Ragon a vécu toute son enfance avec sa mère. Il y avait peu de bouquins chez lui, mais il y avait quand même quelques volumes qui traînaient. Alors des volumes, ça pouvait être des bondieuseries, des choses comme ça, mais il y avait aussi quelques classiques, et il lisait tout. Voilà. Alors du bon, du moins bon, et moi pour avoir aussi tout lu quand j'étais gamin, c'est pareil. Il y avait à la maison mon père qui était imprimeur. Moi, j'ai pas eu un manque de père, mais mon père était imprimeur, mais il savait pas lire ni écrire lui-même. Mais par contre, c'était important qu'il y ait des livres à la maison, donc il y avait toute la collection du Reader Digest, il y avait des choses comme ça, des bouquins bien jolis, que personne à part moi n'ouvrait, quoi. Mais moi, j'ai vraiment aussi commencé à lire dans ce genre de bouquins.
C'est vrai que, en général, j'ai un peu constaté aussi, c'est que les autodidactes qui ont un rapport à la lecture, c'est un peu des chiens fous dans une bibliothèque. Ils vont un peu dans tous les sens, et un peu au hasard de livres rencontrés. Il n'y a pas de plans de travail que peuvent connaître, par exemple, des gens qui accèdent à la lecture par la filière classique, qui vont à l'université, qui ont des gens qui les guident, etc. Je crois qu'effectivement, les autodidactes, ils butinent un peu partout, quoi.
Alors, oui, je crois que c'est Sartre qui disait, je crois que c'est dans les mots, un autodidacte lit tout, un peu comme on lirait l'annuaire téléphonique, quoi, de A à Z. C'est comme un dictionnaire, quoi. Il va tout essayer de tout lire sans forcément comprendre, sans ligne directrice. Mais c'est aussi, les autodidactes sont toujours des gens extrêmement érudits. Alors après, au fil du temps, ils vont s'attacher à un sujet ou à un autre. Ça vaut et pour Poulaille et pour Ragon. Ils vont faire en sorte de choisir leur lecture, mais ça vient après, ça.
Alors, nous allons revenir précisément à ton ouvrage. Hein. Je rappelle le titre, Une rage de lire, le jeune Michel Ragon, publié aux éditions de l'Échappée. Alors, ton livre est structuré autour de trois localités, hein, Fontenay-le-Comte et la Vendée, Nantes, puis Paris. Parlons, je crois que c'est important et significatif, de l'enfance vendéenne, c'est-à-dire la pauvreté, pas la misère mais la pauvreté, je crois que c'est le terme que Ragon ou toi-même utilise dans le livre, des racines paysannes donc, Quelques traces, et des racines paysannes également. Quelques traces, Michel Dragon, concertine de ces années-là. Le désir de lire quand la marmite n'est destinée qu'à faire, quand l'argent n'est destiné qu'à faire bouillir la marmite.
Ah bah, je crois qu'il conserve. C'était Ragon, il est en 1924, hein, donc c'est les années 1930, quoi. C'était un milieu extrêmement modeste. Son père donc n'était pas là, et puis son père avait disparu de la circulation, même s'il était toujours en vie, et même s'il a donné une demi-sœur à Michel, mais pas de nouvelles. En revanche, la mère de Michel travaillait, était concierge. Hein, voilà, et puis sa famille travaillait aussi. Alors il y avait une branche qui était plus, disons, artisan, tanneur, des boulots comme ça. Et puis il y a une branche qui voyait pas, mais qui était paysanne. Et le jeune Ragon s'est démené dans ces milieux qui sont des milieux très très modestes, mais c'est le travail au quotidien, c'est le travail, si tu travailles pas tu meurs, et effectivement, comme il dit, c'était une pauvreté, un petit peu une pauvreté comme Armand Robin va revendiquer aussi dans certains de ses textes. Il faut être pauvre parce que ça te permet aussi d'avoir un regard bien particulier sur le monde, et il faut pas du tout renier cette pauvreté, mais c'était pas du tout de la misère non plus. Il y avait pas de mendicité, il y avait pas de d'assistanat, il y avait pas de choses comme ça. Il y avait très très peu d'argent qui rentrait au foyer, mais il y avait assez pour vivre, je dirais pas bien, mais et Ragon raconte souvent qu'il a toujours eu faim, et de lire bien sûr, mais aussi faim avec son ventre, toute son enfance, voilà. Mais en même temps, il est pas mort de faim.
Ce que tu relates aussi, enfin, ce que je trouve assez intéressant, à la fois quand il est très jeune et après à Nantes, et même peut-être après à Paris, c'est, on parlait tout à l'heure d'une boulimie de livres et d'aller à la source d'un certain nombre d'ouvrages. En même temps, ce que rend bien le livre, c'est que il se promène beaucoup dans les villes, il marche beaucoup à pied, il rencontre beaucoup de gens, et on a l'impression qu'il accède aussi à la culture en rencontrant telle personne qui fait tel métier concret, manuel par exemple, et que c'est aussi une source de savoir.
Ragon, ça a toujours été un piéton. Hein. D'ailleurs, il a jamais eu le permis de conduire. Hein. Ça veut dire des choses aussi, ça. À une époque où la voiture était vraiment reine, quoi. Il fallait avoir le permis, une voiture. Il a jamais voulu. Et effectivement, c'était, je pense au Piéton de Paris, c'est Henri Calais qui avait écrit un bouquin avec ce titre. C'était tout gamin, il marchait autant qu'il pouvait, parce que, enfin, moi je dis ça, aujourd'hui je suis à Paris, et hier j'étais à Paris aussi, j'ai marché des kilomètres dans Paris plutôt que de prendre le métro, parce que qu'est-ce qu'on peut découvrir, de voir des choses, même bien sûr, je suis pas un gamin, je connais Paris, mais à chaque fois je vois des choses, je vois des nouvelles choses, je redécouvre, ça change tout, et Ragon, c'était vraiment, je sais pas comment dire, de deux yeux ouverts sur le monde, et puis avec une petite paire de jambes en dessous et qui trottait partout, et le nez en l'air et en même temps un bouquin entre les mains. Enfin, c'était du genre à lire tout en marchant et à se cogner dans les réverbères ou les piétons. Mais ce qui faisait que c'est intriguant, un gamin comme ça. Enfin, c'est bizarre, tu peux être que bienveillant quand tu vois un gamin comme ça, et donc tu peux, si ce gamin il te regarde et qu'il a l'air de vouloir te poser une question, tu peux que lui répondre gentiment. Et ça, pour Ragon, ça lui, et pour l'âne aussi, hein, mais pour, ça a vraiment permis des rencontres qui n'auraient pas eu lieu s'il était resté chez lui à jouer, ou dans son quartier avec les gamins, ou même chez lui dans sa chambre, juste nez plongé dans les livres. Il y a eu les deux.
Oui, je crois que c'est des rives où c'est nécessaire. Parfois aussi, on verra peut-être tout à l'heure avec son insertion dans la ville de Nantes, c'est en même temps des petits boulots qui vont faire qu'il va être amené aussi à c'est pas simplement le nez en l'air, simplement à mon avis, hein, qu'il va déambuler, mais c'est, et ça on retrouve aussi chez Poulaille, c'est par certains types de travail, de travaux qu'ils vont faire, et qui vont les amener à avoir beaucoup de contacts et quelque part absorber une connaissance directe. Alors, je voudrais juste revenir par rapport, donc on a vu Fontenay-le-Comte, une famille paysanne d'un côté, mais qui ne connaît peu, si ce n'est exceptionnellement, je crois que c'est un moment, ils partent en vacances, je crois que c'est la première fois. Et ensuite, ils s'installent à Nantes. Et Nantes, en fait, ce que tu relates dans ton livre, et en s'appuyant sur les textes de Michel Ragon, c'est qu'il est confronté à la découverte d'autres milieux sociaux, d'autres classes sociales, d'autres comportements. Alors, qu'en est-il exactement et comment réagit-il? Quel décalage il ressent?
C'est sa mère qui trouve un poste de concierge à Nantes, et qui l'emmène avec lui. Lui, quand il arrive à Nantes, c'est un gamin perdu dans une ville immense. Il est au début, il est complètement perdu. Il connaît personne. Il est plus scolarisé. Sa mère gagne vraiment très peu et lui est en quête de boulot, donc tout ce qu'on peut lui proposer. Il a plein de boulots manuels et puis aussi de fil en aiguille des boulots d'administration, quoi, dans des bureaux, des choses comme ça. Et à chaque fois, sa mère est toujours à lui dire, il faut l'idéal, c'est que tu trouves un boulot dans l'administration et puis comme ça tu seras tranquille, tu auras un salaire assuré, parce que pour elle, c'était extrêmement important de pouvoir boucler les fins de mois et puis pas être toujours en quête d'argent. Donc, si tu deviens fonctionnaire, mon fils, ça c'est idéal. Et tu feras ta vie et puis après, tu auras une retraite et tu seras heureux. Finalement, c'est un point de vue qui est toujours d'actualité. Hein. C'est beaucoup souhaitent ça à leurs enfants. Ragon, non, il a jamais. Bon, bien sûr, il faut gagner de l'argent, il faut vivre, mais ça, il a jamais eu envie de se retrouver le cul dans un bureau. Alors, ça lui est arrivé à Nantes. Où il a travaillé dans différents endroits, dans une grêlerie, la préfecture aussi, voilà. Mais c'était toujours les yeux ouverts, et qu'est-ce que je prends, qu'est-ce que j'apprends, qui je rencontre, et qu'est-ce que j'en fais.
Oui, mais si je me souviens bien, il y a quand même un métier, il me semble que ça a aussi un rapport avec Poulaille, c'est ce qu'on appelle saute-ruisseau. Ce que tu appelles saute ruisseau, c'est-à-dire qu'il fait des livraisons
coursier.
À droite, coursier. Et il me semble que Poulaille a fait ça aussi il livrait des médicaments, si ma mémoire est bonne. Et on retrouve les deux mêmes métiers. Cette expression, je trouve qu'elle est intéressante, saute ruisseau, tu cavales partout. Mais là, t'as pas un travail manuel fixe, ou t'es pas non plus dans un bureau. Mais il me semble que c'est aussi quelque chose qui rejoint ce besoin là, c'est par nécessité qu'il va circuler dans la ville, mais ça va être une source aussi de connaissances.
Pour Michel Ragon, être saute ruisseau, coursier, aujourd'hui on dirait même livreur Uber peut-être. Ouais. Tout gamin, enfin il n'avait aucun diplôme et il ne connaissait pas Nantes. Hein. Et ce petit boulot, ça lui a permis de vadrouiller dans toute la ville de Nantes, ce qui fait qu'en très peu de temps, il connaissait tous les quartiers. Il a pu s'approprier de cette façon-là la ville, qui était quand même une grande ville. Hein. Et puis, au fur et à mesure, en allant, il a découvert ça, et il a poussé des portes aussi.
Il découvre, tu montres dans l'ouvrage, des gens, des métiers, la peinture. Il commence à voir un musée physiquement, concrètement, et peut-être un peu d'urbanisme aussi de la ville.
Bien sûr, mais et aussi les bibliothèques. Parce que jusqu'alors, il avait eu accès aux bouquins qu'il trouvait de ci, de là, quoi, qu'il y avait chez ses grands-parents aussi, hein, le père Sourisseau, son grand-père maternel. Il y avait des bouquins, il y avait très peu de bouquins, mais il y avait quelques titres. Il y avait aussi la presse. Alors la presse, c'était les quotidiens régionaux, enfin, de l'époque. Il y avait ce qu'on appelle la chose écrite, ça, il y a eu accès très tôt. Mais à Nantes, il y a des bibliothèques, des grandes bibliothèques, et des bibliothèques de toutes sortes. Alors, des bibliothèques qui peuvent être de congrégation, des bibliothèques religieuses, mais aussi des bibliothèques municipales. Et il a poussé les portes, et quand il a découvert ces rayonnages, je le vois, le gamin devant les montagnes de livres, c'était le monde entier qui devenait accessible pour 0 centime.
Très bien.
Et c'était à lui de faire son choix, là.
Voilà, donc une ouverture par son insertion dans la ville de Nantes. Nous allons faire une pause musicale en écoutant Léo Ferré, L'enfance.
Souviens-toi des souliers usés, des vendredis, et le poisson qui se rendait sur la table à midi, et qu'il marchait tout seul, qu'il n'était pas poli. Frais ou pas le maquereau, faut que ça fasse des chichis. Souviens-toi des jeudis et de la mer Larousse, le frangin à rabat comme un flic à tes trousses, et ta plume qui grattait sous l'œil de ce bandit qu'une certaine envie mettait à ta merci. L'enfance, c'est un chagrin cueilli de frais, c'est un jardin, c'est un bouquet, c'est des épines aussi. L'enfance, c'est le paradis dans du cambouis, c'est des caresses au fond de la nuit, c'est une leçon d'ennui. L'enfance, c'est des copains qu'on a perdus, c'est des petites mômes qu'on n'a pas eues, c'est une chanson toute nue. L'enfance, l'enfance, c'est un jouet qui s'est arrêté, c'est l'innocence rapiécée, c'est toujours ça de passé. L'enfance. Souviens-toi des frangines qu'avait même pas 10 piges dans la nuit retrouvée. On jouait à se faire la pige, même qu'elles étaient girondes, avec leurs yeux barrés juste en dessous, comme une ombre, comme le phare du péché. Souviens-toi des silences au fond des corridors et ce halètement divin, je l'entends encore. Et puis la nuit fidèle à se rappeler ces trucs-là et cette foutue mémoire qui me tient par le bras. L'enfance, c'est un pays plein de chansons, c'est le remords de la raison, c'est la folie aussi. L'enfance, c'est l'enfer sous le tableau noir, c'est Tahiti dans un dortoir, c'est l'âme de la nuit. L'enfance, c'est un oiseau qu'on a manqué, c'est un chat qu'on a chahuté, et c'est la cruauté. L'enfance, l'enfance, c'est jour après jour quitter l'ombre, et vers la proie et vers le nombre, c'est apprendre à frapper. L'enfance. Souviens-toi des bonbons et puis du Père Noël, de la toupie qui tournait, 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 qui tournait.
Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Libertaire 89.4. La radio sans Dieu ni maître ni nationalité, à l'écoute de l'émission « Et pourtant, elle existe, cette littérature », émission consacrée à la littérature prolétarienne. Nous venons donc d'écouter Léo Ferré, l'enfance, et nous allons revenir à l'entretien avec notre invité Thierry Maricourt pour son dernier livre, « Une rage de lire, le jeune Michel Gragon ». Alors, je voudrais poursuivre un peu sur la période nantaise. Parce qu'à un moment, tu évoques, ou est-ce Ragon, dans un de ses textes, tu évoques, dans cette période nantaise, un possible attrait, moi ça m'a un peu interpellé, de Michel Ragon pour l'anarchisme. Sur quoi se font, parce que c'est un point qui est évoqué sans être réellement étayé, enfin à mon avis, et quels sont les indices qui pourraient nous éclairer sur cet aspect ?
Alors là, c'est une très bonne question, ça. Enfin, moi, je pense que quelque part, un autodidacte a une démarche libertaire. Dans la mesure où il ne s'en remet pas des prescripteurs qui vont être des enseignants, par exemple, où c'est lui qui décide de ce qu'il lit, de ce qu'il découvre, de ce qu'il aime, de ce qu'il n'aime pas. C'est ce qui m'a toujours intéressé dans la littérature libertaire, c'est pas tant les textes, hein, tout ce que ça montre, ça explique du monde, mais c'est aussi cette démarche, cette façon de se mettre debout et en disant moi a priori j'ai pas le droit à la culture parce que je viens d'un milieu trop modeste, trop pauvre. Et je vais m'accaparer ce droit parce que la culture, ça doit être un droit, et c'est ce qui permet. C'est le seul droit qui permet réellement de se mettre debout. C'est pas le droit de vote, c'est pas. C'est l'accès à la culture et l'appropriation de la culture. Alors cette démarche que le jeune Michel a depuis toujours, depuis son plus jeune âge, pour moi, elle est foncièrement libertaire. Alors après, quand il est dans Nantes, il a pas un drapeau noir sur le dos, c'est pas un anarchiste en quête d'un groupe militant qui pouvait exister à l'époque, mais c'est la démarche que je qualifie de libertaire.
Tu veux dire que le fait de s'emparer de manière autonome de la lecture signifie une volonté d'émancipation qu'on peut rattacher au courant libertaire. Mais il y a aussi des gens qui peuvent s'emparer de la lecture pour arriver, c'est-à-dire être quelqu'un et renier parfois même ses origines.
Bien sûr, après, c'est la lecture, et s'accaparer la lecture, c'est un outil, hein, c'est pas une fin en soi non plus. Mais l'outil, Aragon n'a jamais eu la, même tout petit. Enfin, sa mère le poussait à devenir fonctionnaire. Même les quelques membres de sa famille, c'était soit il reprenait l'entreprise de tannerie où il était embauché là-dedans et tout ça. Mais il a jamais eu cette volonté de dire je vais travailler dans tel domaine et puis m'y tenir et puis je vais monter socialement par ce biais. Ça l'a jamais intéressé, ça. Aujourd'hui, on pourrait parler d'électron libre à propos de lui. Ce qu'il voulait, c'était vraiment la lecture. L'écriture, c'est venu après, bien sûr. Comme outil d'émancipation.
Quoi qu'il a, l'écriture vient après, mais il a aussi tout ce que tu mets en évidence dans le livre, c'est aussi qu'il a la volonté de tout noter ce qu'il écrit. Il y a tout.
Oui, voilà.
Il recense. Il est. De manière anarchiste, non?
Non, j'y a pas de manière anarchiste, mais. C'est presque drôle, d'ailleurs. Enfin, Françoise, qui a été la compagne, la femme de Michel Aragon, elle m'a montré, enfin, tous les carnets que Michel avait. Enfin, il avait des petits carnets dans lesquels il notait tous les bouquins qu'il lisait. Ouais. Il mettait ça par ordre alphabétique. un classement qui peut laisser à désirer, qui est pas forcément le plus fonctionnel, mais il mettait tous les titres des bouquins qu'il lisait, avec les auteurs, avec les dates quand il les avait achevés. Il y en a plusieurs dizaines comme ça. Enfin, il a toujours fait ça. Enfin, c'est marrant, moi j'ai toujours fait pareil aussi, j'ai toujours noté tous les titres des bouquins que je lisais. Ça permet aussi après, des fois on cherche un titre, tout ça, des fois on est même, quand on est boulimique de lecture, à relire deux fois même bouquin sans vraiment savoir parce qu'il est présenté autrement, ça permet d'éviter ça.
Et puis on autogère un peu sa propre connaissance puisqu'on n'a pas de gens qui nous dirigent et qui nous conduit sur cette voie, quoi. Je crois que c'est un peu.
Voilà, mais Aragon, c'est drôle quand on voit ses carnets, parce qu'il y a quand même une double volonté. Il y a quand même des choix. Il lisait tout. Alors le hasard a pu jouer, mais en même temps, d'une part, il lisait tout ce qui était classique, et ça, c'était facile à trouver. Hein, tous les petits volumes classiques. L'Antiquité et plus classique jusqu'à la fin du 19e siècle, Hugo, Zola et tout ça, tout ce qui était classique. Et puis il a essayé aussi de lire tout ce qui était la littérature de son époque, enfin tout ce qui lui était accessible, mais les auteurs de son époque, les auteurs contemporains vivants.
C'est-à-dire qu'il y a aussi, il me semble, dans le livre, cette démarche que tu décris de lecture, mais en même temps, il commence aussi à tisser des liens avec des gens. Hein, je crois que c'est à Nantes, si ma mémoire est bonne, où il se lit avec certains poètes, ce qu'on a appelé les coqs de Rochefort, il me semble. Hein. Il y a aussi un début de contact avec passer du jeu au nous, quelque part.
Alors, il a toujours essayé de nouer des liens avec des gens qui pouvaient lui apporter quelque chose intellectuellement. Voilà, il a jamais cherché à monter socialement, mais en revanche, monter culturellement, monter intellectuellement, si on peut dire, ça a toujours été son but. Et à Nantes, il y avait l'école, ce qu'on appelait l'école de Rochefort, qui existait ou qui était en voie de constitution avec René Guicadou. Et le premier, d'ailleurs, il s'était donné rendez-vous, alors d'une part, il y a ça, il s'était donné rendez-vous, mais c'était la guerre, et il y a eu un gros bombardement sur Nantes, et le rendez-vous de fait n'a pas eu lieu. Et Michel Ragon a rencontré Cadou un peu après. Hein. Ça courant est passé, ou moins bien passé. Enfin, en même temps, c'était un autre monde. Cadou avait déjà une grande reconnaissance, il était du milieu enseignant. Ragon, il s'est pas senti tout à fait à sa place, quoi.
Il va y avoir quand même une rencontre avec un peintre, James Kittet, qui va rester quand même dans l'itinéraire de Ragon. Ils vont se retrouver, etc.
Voilà, et Ragon, quand il est à Nantes à cette époque-là, entre deux bombardements et puis entre deux heures passées à son boulot, là par exemple il travaillait à la préfecture de Nantes pour les papiers d'identité. Il courait aussi, alors outre les bibliothèques, les galeries de peinture. Il y en avait plein à Nantes. Alors, ça valait ce que ça valait, hein. Mais ce qui était intéressant chez lui, c'est que justement, on lui avait pas dit en amont telle toile est jolie, il faut que tu l'apprécies. Telle autre, c'est moche. Mon enfant pourrait faire pareil. Enfin, comme font des fois des adultes. Il n'avait pas tout ce parasitage en tête. Donc, quand il rentrait dans une galerie de peinture, alors d'abord c'était le gamin qui rentrait dans une galerie de peinture, et souvent c'est des lieux quand même réservés à certains clients. Et ça a un coup les toiles. Il rentrait comme ça, un petit peu, pas très forcément toujours très propre sur lui, tout ça, mais bien poli. La personne qui tenait la galerie le considérait, qu'est-ce que tu fous là, toi, qu'est-ce que tu cherches à voler et tout ça, t'es un peu ça quand même. Et lui, rien, je veux juste regarder. Il pouvait regarder les toiles avec un regard même pas neuf, un regard vierge. Il aimait ou il aimait pas, enfin, et c'était même pas il aimait ou il aimait pas, c'était je ressens quelque chose ou je ressens pas. Ça me touche et ça me touche pas. Et ça lui a permis de... c'est pour ça qu'il s'est très tôt senti attiré par la peinture abstraite, parce que ça lui parlait directement, ça. Il n'avait pas besoin d'avoir des repères... toute l'histoire de l'art, il n'a pas besoin de l'avoir en tête. Et même l'histoire de France, l'histoire du monde, il n'avait pas besoin. Il avait forcément plein de lacunes. Mais l'art abstrait, ça lui a permis de sauter des étapes de ce côté-là. J'aime pas. Et puisque j'aime, par contre, je vais essayer de creuser. Et c'est comme ça qu'il a rencontré James Kittet, qui était ils étaient à peu près du même âge. Et tous les deux ont vraiment sympathisé. Enfin, c'était une grande amitié qui s'est poursuivie longtemps.
D'ailleurs, pour ceux et celles qui voudraient approfondir la question de la relation avec James Kittet, dans le numéro de Plein Champ qui est consacré à Michel Ragon, je crois que c'est Michel Ragon autour des siens ou quelque chose comme ça, de mémoire. Parmi les siens. Il y a un entretien de James Kittet qui relate un peu la période parisienne. Tu avais un peu anticipé la question que je voulais te poser, puisque c'était sur l'art, où je disais que la découverte de la peinture, pour lui, c'est une course à handicap, comme pour tous ceux qui viennent d'en bas. Je veux dire, moi, personnellement, j'ai connu la peinture grâce au timbre... de l'époque, il y avait dans les chocolats, c'est moi, je me rappelle, il y avait des timbres, et c'est le premier rapport que j'ai à la peinture. Et lui, c'est un peu une course à handicap quand même, parce qu'il n'a, ce que tu disais, il n'a pas de culture picturale, mais il n'a pas de code préétabli, quoi.
Il a toujours échappé à tous les codes, mais ça jusqu'à la fin de sa vie. Hein. Il a toujours été, même après, dans les années 90, 2000, il était très très reconnu, enfin même avant ça, mais l'école, d'une part, ça lui a échappé, et puis quand il a commencé à les comprendre, il en a pas voulu. Enfin, moi, il y a une phrase que j'adore de Aragon, c'est il dit, je me suis toujours considéré plutôt gibier que chasseur, quoi. Voilà, donc toujours plutôt du côté du bas que du haut, plutôt du côté de... Enfin, pas de ceux qui ont le pouvoir, quoi. Et... Mais cet attrait pour la peinture, c'est alors qui a commencé en lui vraiment très très tôt quand il arrive à Paris. Alors, il y a peut-être sauté tes questions, mais oui. Quand il arrive à Paris, aussitôt, effectivement, il partage un logement avec Guittet. Enfin, il continue à essayer de découvrir la peinture contemporaine, enfin donc la peinture abstraite. Et puis parallèlement, il rencontre Poulaille.
On va en parler. Là, je voulais revenir juste, toujours à Nantes, quand même, sur... On a abordé un peu les rapports mère-fils. Tu l'as un peu esquissé sur la question de quel avenir elle voulait pour Michel Ragon. Le besoin de sécurité, mais qui est quelque chose, je veux dire, qui est naturel. C'est légitime. Quand on vit dans légitime. Quand on vit dans la sécurité, on veut pénériser un il y avait, je crois que c'était un des slogans de la CGT, une époque, dans un bien-être sûr, qui est le titre aussi d'un ouvrage de Georges Malraux, c'est le besoin de ne pas être à la merci de galères permanentes et d'avoir des fins de mois qui commencent le 10. Donc ça, c'est... Mais comment ça se manifeste justement entre ce chemin qu'elle voudrait sécuriser pour Michel Ragon et lui? C'est-à-dire, comment il va gérer cette contradiction entre faire ce qu'il a envie sans rompre vraiment avec, quelque part, pas sa classe, mais en tout cas, la figure maternelle qui incarne une classe sociale.
Enfin, moi, je ne parlerai pas du tout de contradiction, mais c'est
une dualité.
Oui, cette dualité, plutôt, ça se rencontre dans beaucoup de familles. Hein. Les enfants sont pas forcément comme leurs parents, et heureusement. Voilà, elle voulait son bien-être, elle voulait enfin, pour elle, s'il s'était marié, qu'il avait eu des enfants, et s'il avait pu jouer un rôle de grand-mère, ça aurait été parfait. Et lui, un bon fonctionnaire. Mais avant même ça, enfin, il avait été élève à l'école des frères à Fontenay-le-Comte. Enfin, on l'avait mis là parce qu'il y avait, c'était là qu'il y avait de la place, quoi. C'est tout. Hein. C'était pas par croyance, mais il était un bon élève, bien sûr. Et il y a un frère qui lui avait proposé de continuer pour devenir frère lui-même plus tard. Ce qui était aussi une réussite sociale. Bon, d'une part, Dieu, il s'est toujours demandé qu'est-ce que c'était. Il n'y a jamais cru, ça n'a jamais intéressé. Et puis même, enfin, le fait comme ça, tout petit, que on te présente devant toi un chemin tout tracé, ça, il l'a refusé. Donc, il a refusé déjà ça avant de dire non à sa mère. Mais bon, ça s'est pas présenté de cette façon-là. Il n'a pas dit directement non à sa mère. Il a vécu sa vie, tout simplement. C'est Poulain qui avait écrit Vivre sa vie, hein, et ça, c'est, oui. J'adore ce titre. Et Ragon, c'est vraiment ce qu'il a fait. Il a, ils vivaient dans le même petit logement, enfin, un truc un peu insalubre et tout ça à Nantes. Sa mère, elle faisait son boulot de concierge. Et puis lui, il amassait les bouquins, il lisait. Bon, pour sa mère, c'était pas un problème. Sa mère lisait aussi, hein. Elle lisait peu, elle lisait pas du tout les mêmes choses, mais elle lisait un petit peu, donc c'était bien de lire parce que c'était aussi. Elle était pas sur le principe tu perds ton temps. Ça, c'est pas ce qu'elle lui disait, parce qu'à l'époque et encore aujourd'hui, dans les milieux très, très modestes, la lecture c'est une perte de temps, et puis à l'époque c'était aussi tu vas t'abîmer les yeux, et puis ça coûte cher aussi parce qu'il faut une bougie, enfin il faut de l'éclairage pour lire le soir.
Il peut y avoir des microbes aussi, j'ai entendu ça aussi.
Ouais, enfin,
les microbes.
Dans les bouquins, ouais, il y a plein de choses.
Ouais.
Enfin, plein de raisons qui ne valent rien, mais pour ne pas lire. Et racontant ça, il a lu.
Voilà. Tu as évoqué en filigrane, à un moment, à Nantes, la période de la guerre. Parce qu'il y a la guerre à partir de 38, et comment il va se positionner pendant cette période, puisqu'il rentre D'abord, au départ, il a ses petits boulots, et à un moment, il rentre. Il n'a pas les diplômes, d'ailleurs, pour rentrer, hein, puisqu'il a son certificat d'études primaires, et il va rentrer à la préfecture de police. Et, à la préfecture, excuse-moi. Et comment ça se passe par rapport à la situation de guerre, par exemple?
Non, il n'avait pas de diplôme, mais il y avait aussi un gros besoin de main-d'œuvre, enfin de personnel. Ouais. Enfin, tous les hommes jeunes, valides et tout ça étaient partis à la guerre, ou étaient prisonniers, enfin étaient morts ou étaient prisonniers. Mais il est d'abord rentré comme garçon de course aussi. Oui, voilà, ouais. Saute-ruisseau, coursier, garçon de course. Il y a plusieurs expressions qui signifient un peu la même chose. Il est d'abord rentré comme ça. Et après, il s'est retrouvé. C'est pareil, dans ce boulot, il aurait pu monter s'il avait voulu. Enfin, il y a eu plusieurs fois des propositions. Ragon est né en 1924, donc la guerre c'est 39, il était très jeune, hein, et c'est un adolescent, on dirait aujourd'hui. Alors bien sûr, il essaie de comprendre, il voit bien ce qui se passait et tout ça, mais il y a aussi beaucoup de choses qui lui est échappé. Et puis la guerre a touché dans un premier temps, ça n'a pas touché Nantes, il y avait d'autres régions, mais Nantes c'est venu un petit peu vers la fin de la guerre, enfin 42 et puis après. Et lui, il s'est retrouvé très tôt à avoir des papiers d'identité entre les mains. Voilà. Donc ça, quand il a compris un peu ce qui se passait, qu'il pouvait peut-être faire quelque chose, il s'est mis à faire circuler des papiers. Voilà. Enfin, faire circuler les papiers, ça veut dire remettre des papiers, les tampons, des choses comme ça, aux mains de résistants.
D'accord. Et à un moment, il est obligé de quitter.
À un moment, ça se Nantes, sait. Ouais. Éventuellement, il aurait été dénoncé par une de ses ex-petites copines. Et là, il est son chef à la préfecture lui dit t'es recherché, la Gestapo va arriver pour t'arrêter. Donc là, il n'attend pas, heureusement pour lui, et il s'en va dans le bocage vendéen.
Il retourne aux sources.
Voilà, et là, il va se cacher dans divers endroits, et notamment chez sa famille agricultrice.
D'accord. Donc nous allons faire à nouveau une petite pause musicale. Nous sommes donc sur Radio Libertaire, 89.4, et nous allons maintenant écouter Nina Simone. I got no, I got life, ne riez pas de mon accent. Ain't got no earth, ain't got no water, ain't got no ticket.
Nous sommes toujours sur Radio Libertaire 89.4, l'émission Sans Dieu ni Maître ni Nationalité, à l'écoute de l'émission Et pourtant elle existe, cette littérature qui est consacrée à la littérature prolétarienne, littérature ouvrière, paysanne et sociale, animée par des membres du Cercle culturel de littérature ouvrière, paysanne et sociale, qui réalise la revue Fragment, qui en est à la préparation de son 8e numéro. Alors nous allons poursuivre notre entretien avec Thierry pour la dernière facette de son approche du jeune Ragon, qui est son arrivée à Paris. Alors là, il va commencer à se lier avec des artistes et poursuivre sa frénésie de connaissances. Quelle rencontre, selon toi, s'avère décisive ?
Oh là là, on peut refaire d'autres émissions. Alors là, il y a énormément de choses à dire là. Ragon, quand il était à Nantes, il a lu énormément de choses et il a essayé de. Alors il était gamin, donc à Nantes, il avait 15 ans, 17 ans. Il a essayé de correspondre avec les auteurs vivants dont il se sentait. Enfin, qui écrivaient des choses qui le touchaient. Voilà. Ce qui fait quand il est arrivé à Paris, il avait déjà toute une correspondance avec Henri Poulaille, avec Ludovic Massé, avec un certain nombre d'auteurs. Il connaissait pas Paris. C'était quasiment la première fois qu'il mettait les pieds à Paris. Hein. Il a trouvé une chambre de Bougna, rue Petit, dans le 20e arrondissement. Enfin, vraiment. Et puis, voilà. De ce point de vue-là, matériellement, c'était la précarité. Mais il avait quand même des gens qui pouvaient aller voir. Et il est allé voir, notamment, il a commencé par Henri Poulaille. Henri Poulaille, qui, à l'époque, avait une grosse vingtaine d'années de plus que lui. Poulaille est né en 1896, hein, donc 28 ans de plus, et puis qui travaillait au service de presse des éditions Grasset ou des Saint-Père. C'était lui le directeur du service de presse. Et puis il y avait toute une petite cour, enfin je dis ça, c'est pas péjoratif, mais autour de lui, d'écrivains prolétariens. Parce que Poulaille a toujours essayé de répertorier tous ces écrivains et puis de faire des revues autour de la littérature prolétarienne, la faire connaître, la défendre. Et donc Ragon est allé le voir directement, et là Poulaille a été. C'était Poulaille avec. Autant il pouvait être parfois coléreux ou se fermer très vite, ou autant il pouvait être un homme chaleureux, gentil, et ça a été le cas quand Ragon est arrivé, quoi. Il lui a vraiment ouvert les bras. Voilà. Alors il y a.
C'était. Effectivement, Poulaille est une référence depuis les années 30, quoi.
Bah avec l'apparition de Nouvel Âge littéraire, ouais. Hein, un bouquin dans lequel il a essayé de recenser tous les auteurs de langue française en lien avec la littérature du monde du travail. Et
pas que de langue française.
Francophone. Ouais. Dans Nouvel Âge littéraire.
Le livre, Nouvel Âge littéraire, d'accord. Après, mais dans la revue, oui. C'est international. Quoi,
oui, bien sûr.
Mais justement, d'ailleurs, Guénaud a suivi le même chemin. Quand il commence, il s'adresse à Poulaille. C'est un peu.
Y en a beaucoup qui sont passés par Poulaille. Il y en a qui. Même Giono. Hein. Giono a été publié chez Grasset grâce à Poulaille. Hein. Et alors certains lui ont rendu hommage, l'ont remercié, et puis certains l'ont complètement oublié. Hein. Enfin, mais là, je ne donnerai pas de nom parce que des fois c'est un peu décevant, mais. C'est aussi le retour du bâton, ça, c'est bon. Mais alors, Ragon a rencontré Poulaille, mais il a rencontré aussi. Alors, Poulaille il était anarchiste, hein, il s'est toujours dit anarchiste, il était. Et donc, il y avait aussi énormément d'anarchistes qui gravitaient autour de lui. Et alors, à partir de 44-45, et puis après, ça a été toutes les rencontres des anarchistes de l'époque. Ça a été Louis Lecoing, par exemple, un super bonhomme militant. Enfin, on connaît Louis Lecoing parce que c'est lui qui a réussi à mettre en place une loi sur l'objection de conscience. Mais avant ça, c'était un militant libertaire très, très actif. Il a rencontré Maurice Joyeux aussi, après l'un des fondateurs de la FA, mais voilà, il a rencontré Armand Robin aussi, ils ont été très, très proches. Ragon a eu cette chance, enfin bon, c'est pas une chance d'ailleurs, c'est lui qui a mis ça en place, mais de rencontrer tous les acteurs de la littérature prolétarienne, et puis tous les acteurs du monde anarchiste aussi, de l'époque. Et comme il était... Ragon, ça a toujours été quelqu'un d'ouvert, quoi, qui essayait de voir le bon côté des choses plutôt que le mauvais. Et c'était pas quelqu'un à se fâcher sur des bricoles et tout ça. Donc, il a été ami avec plein de gens très tôt.
D'accord. Donc, des Poulaille et d'autres, parce qu'il y a aussi Émile Guillaumin aussi, où il a des échanges.
Oui, oui, bien sûr.
Qui lui mettent un peu le pied à l'étrier, comme on dit à l'époque. Mais ça va quand même plus loin que simplement. Avoir des contacts, c'est que dès 47, si ma mémoire est bonne, il lui donne Poulaille la direction d'une revue, c'est-à-dire qu'il a 23 ans.
Voilà, voilà. Ce qui montre bien.
C'est le cahier du peuple.
Poulaille n'aurait pas confié la direction d'une revue à n'importe qui, quoi. C'était le jeune âge de Ragon le desservait plutôt. Mais ça montre bien qu'à cette époque, il savait déjà de quoi il parlait. Et Poulaille lui confie la direction, et puis Ragon publie très tôt les écrivains du peuple, voilà, avec une préface de Descaves, hein, Lucien Descaves, qui était. À l'époque, on a oublié qu'il était Descaves, mais il était membre de l'Académie Goncourt, si je ne dis pas de bêtises. Mmh. Enfin, c'était une sommité dans le monde des lettres. Et puis, Ragon a rencontré aussi à cette époque Édouard d'Oléance.
Édouard d'Oléance, qui est historien du mouvement ouvrier.
Historien du mouvement ouvrier, enfin l'historien du mouvement ouvrier. C'était un très très grand nom, et c'était par ailleurs un très grand universitaire aussi. Et encore une fois, ça, pour rejoindre ce qu'on pouvait dire tout à l'heure, d'Oléance a insisté auprès de Ragon pour qu'il suive une carrière universitaire ou qui bosse en bibliothèque et puis qui grimpe les échelons. Quand Ragon est arrivé, en fait, il a eu presque deux pères spirituels, Poulaille et puis d'Oléance. Voilà. Et qui travaillaient un peu sur les mêmes sujets tous les deux, hein. Ils essayaient de promouvoir et l'un et l'autre le monde ouvrier, la culture ouvrière, mais ils étaient complètement différents. Poulaille, autodidacte, qui est resté longtemps prolo, et puis d'Oléance, qui était une sommité dans le monde universitaire. Et Ragon a eu courage, parce que c'était un vrai courage quand même, là, de dire non et à l'un et à l'autre. Il pouvait assurer ses arrières et dire je fais une carrière et puis c'est point. Mais non, il a dit et il s'est fâché avec d'Oléance. Alors, Poulaille c'était son père spirituel, mais d'Oléance il le devient aussi. En fait, il avait deux pères spirituels avec lesquels il s'est fâché tous les deux. Mais bon, il le dit lui-même, il faut se fâcher à un moment avec son père ou sa mère pour voler de ses propres ailes, quitte à. Et l'un et l'autre, il a renoué après avec Henri Poulaille, peu avant la mort de Poulaille en 80. Ils se sont revus, ça a été très très chaleureux. Et puis d'Oléance, lui, est mort en 54, si je ne dis pas de bêtises. Et ils ont renoué aussi un petit peu avant.
Il a reconnu que voilà. Ce que faisait Ragon.
Voilà. D'Oléance, quand Ragon a commencé à publier ses premiers bouquins de métier, notamment, d'Oléance, oui, effectivement, c'est bien écrit, c'est intéressant. Voilà, ils ont renoué à ce moment-là. Mais.
Et c'est d'autant plus important à souligner qu'à l'époque, Ragon fait des petits métiers, quoi. Il fait des petits métiers. Il travaille même en usine, je crois.
Il travaille dans une fonderie. Enfin, oui, il a fait plein de petits boulots. Il a tenu aussi la librairie que gérait par ailleurs Pierre-Valentin Berthier. Pierre-Valentin Berthier, c'est pareil, qui a un parcours intéressant et qui était libertaire. Qui était obligé, qui était censé être libraire, mais comme ça rapportait pas assez, il était obligé de bosser par ailleurs lui-même et de mettre le jeune Ragon aux commandes de la librairie pour qu'elle puisse tourner. Le travail extrêmement prolétarisé et tout ça, c'est pas d'aujourd'hui, quoi.
Il fera un bouquiniste aussi.
Il a été bouquiniste après, voilà. Ouais, enfin, ouais. Il a fait. Et puis juste. Peut-être pour en revenir sur la peinture abstraite, mais Quand Poulet est arrivé à Paris, il s'est plongé dans le milieu prolétarien et libertaire, mais il s'est aussi plongé dans le monde de la peinture abstraite. Et ça n'a pas du tout plu à Poulaille. Pour Poulaille, la peinture, c'est quelque chose, c'est une histoire de classe, hormis la casse et puis de la touche, et quelques peintres qui, effectivement, étaient des prolos. Mais, l'art en soi, c'est pas l'idée de classe. Elle existe, bien sûr. Elle va jouer sur ce que tu crées, mais c'est pas. Il y a pas que ça non plus. Tu peux être un prolétaire et faire des très mauvais tableaux ou des très mauvais romans. Et Poulet, ça n'a jamais voulu l'admettre et tout ça. Ils se sont fâchés là-dessus. Mais il faut dire aussi autre chose, c'est que Ragon, quand il est arrivé à Paris à ce moment-là, il a fait plein de petits métiers, tout ce qu'ils pouvaient trouver. Et le fait, la peinture abstraite d'après-guerre, personne ne s'y intéressait en France. Et donc lui a commencé à faire des articles pour en parler, notamment dans une revue qui s'appelle Simèze. Il a fait ça parce que ça le passionnait, parce qu'il pouvait en parler, parce que la peinture lui parlait à lui, et lui il pouvait essayer de retranscrire ce qu'il éprouvait. Mais c'est aussi un gagne-pain. Voilà, il n'a pas été journaliste, mais il a écrit dans les journaux qui lui rapportaient des petites sommes, hein, petites sommes plus des petites sommes, voilà. Et Poulet, il ne voulait pas le comprendre.
Non, absolument, puis pas que lui, parce que dans le numéro 1 de Fragments, dans le numéro qu'on a fait juste après la mort de Michel Ragon, le 14 février 2020, on a reproduit deux textes polémiques qui étaient extraits. Je crois que c'est le musée social, le petit bulletin, où il y avait, je crois que c'est Constant Magva, qui descendait Ragon sur cette question de l'art abstrait. Et il y avait une réponse de Michel Ragon qui expliquait sa démarche. Et quand tu évoques des gens pas connus, c'est là, et ça a duré quand même jusqu'à la mort des deux personnes, mais c'est là qu'il se lie avec Soulage. Alors que Soulage, personne ne met. Un centime sur lui à l'époque.
Non, bien sûr, un des premiers, je dirais peut-être le premier, même à défendre Soulage en France, c'est Ragon. Mais comme il a défendu beaucoup d'autres peintres qui après sont devenus des célébrités. Oui, et puis l'imbrouille du Buffet et tout ça. Enfin, c'est.
Cobra, voilà. C'est le mouvement Cobra.
Et puis Mouvement Cobra, oui, bien sûr. Ragon, à chaque fois, les premiers à soutenir tous ces mouvements-là, il y en avait pas des milliers de gens. Après, il y a eu des milliers de personnes qui ont gagné un pognon dingue, comme on dit, sur ces peintures-là, sur ces peintres. Mais le premier à les défendre, il les défendait pas. Il essayait de comprendre ce que signifiait cette peinture, c'est tout. Et c'est lui qui en a parlé.
Comme il a aussi des réflexions. Moi, j'ai eu récemment sur l'urbanisme des réflexions, prémonitoires et 30 ans avant tout le monde, quoi. Et ça, c'est des fois ce qu'on reproche à des gens, quoi, c'est d'avoir été un peu visionnaire et de dire oui, mais il aime des artistes connus, mais en fait, il les a connus alors qu'ils étaient rien pratiquement. Ça, je crois que c'est important à souligner. Tu as parlé aussi. Bon, il arrive à Paris, donc il a ses liens, mais bon, il publie. Mais on n'a pas du tout à évoquer, mais il fait aussi de la poésie.
Oui, bah en fait, comme d'autres auteurs, et notamment dans le milieu prolétarien, c'est tout premier volume, c'est des plaquettes, hein, c'est de la poésie, oui. À Nantes, il écrivait déjà de la poésie. Hein,
mais dans ton livre, tu fais référence aussi, des fois tu cites des textes.
Oui, j'ai essayé dans le bouquin pour le rendre aussi plus vivant. J'ai essayé de suivre ce gamin à Fontenay-le-Comte. Là, il était très jeune. Et puis après, préadolescent, ado, comme on dit aujourd'hui, à Nantes. Et puis après, jeune adulte à Paris. Et la poésie, c'est un fil directeur aussi chez Ragon. Il en a écrit très tôt. Il a publié des plaquettes de poésie. Il a eu une certaine reconnaissance, il a eu des prix, Pour les... Alors moi, je les ai tous relus pour écrire ce bouquin, et je me suis dit, ben, il y a plein de passages et tout ça qu'on pourrait prendre pour un petit peu pour montrer, enfin pour comme un refrain qui revient aussi, voilà, au fil de ces pérégrinations. Voilà, il y a ça. Poulain, Ragon n'a jamais été vraiment satisfait de sa poésie. Hein. Il a écrit de la poésie, mais bon, c'était un peu histoire de mettre le pied au métier, quoi, apprendre le métier, mais il y a plein d'influences quand on le lit. On peut penser à Sandras ou d'autres. Enfin, lui-même disait, si on me compare à Sandras, quelle gloire. Comparé à d'autres, mais il a jamais voulu que sa poésie. Après, il est passé à autre chose. Il a écrit des récits, des romans, des bouquins sur l'art abstrait, sur l'architecture, tout ça. Il a jamais voulu que sa poésie soit rééditée.
Mais ce qui est bien dans ton livre, c'est que tu insères certains extraits à certains moments, et je trouve que ça rend vraiment ça coule, c'est fluide. Il y a une narration qui est vraiment facile à lire et qui va à l'essentiel. Voilà, donc on va revenir pour conclure notre entretien avec Thierry. Je voudrais juste que tu, si tu as quelque chose à présenter ou tu y vas, mais pour revenir sur cet intérêt pour Michel Ragon, par lequel on a ouvert l'entretien.
Pour terminer, moi je propose, pour terminer en ce qui me concerne, de laisser la parole à Michel Ragon et de lire un très court extrait de poème. Alors je parle dans le micro et en même temps je lis, je cherche parce que j'avais pas prévu du tout ça, mais c'est pas grave.
T'as pas tes lunettes en plus.
J'ai ni lunettes ni lentilles, mais j'ai deux yeux qui me servent pas trop à grand chose sauf à lire de près. Je voudrais m'évader de ces lieux qui m'étreignent. Trop de mois sont fanés sur tes pavés polis. Je ne veux plus chercher de regards qui me saignent. Je ne veux plus chercher qu'à sourire à la vie. Voilà, c'est un quatrain en alexandrin d'un poème qui s'appelle Au matin de Nantes, enfin qui s'appelle Nantes dans une petite plaquette qui s'appelle Au matin de ma vie.
Voilà. Très bien. Voilà, qui est sans doute introuvable aujourd'hui.
Introuvable.
Voilà. Ben écoute Thierry, je te remercie. Donc je rappelle le titre Une rage de lire de Thierry Maricourt, le jeune Michel Ragon, aux éditions L'Échappée. Et je vous conseille vivement de le lire parce que c'est lecture très fluide et très agréable, et on apprend plein de choses sur cet itinéraire. Et je pense qu'on reviendra parce que nous préparons, en tant que Cercle culturel de littérature ouvrière paysanne et sociale, un colloque pour juin 2024, qui est le centenaire de la naissance de Michel Ragon. Donc nous reviendrons sur ces antennes. Alors après Michel, maintenant Michel Le, qui va nous parler d'un mouvement artistique des années 60, Fluxus Art.
Tout à fait. Donc, bonjour à tous. Donc, Fluxus Art, je vais peut-être commencer à définir un peu le mot fluxus. Donc, c'est un mot qui vient du latin et qui signifie fluctuant. Ce mouvement artistique prône en effet une certaine perméabilité entre l'art et la vie, tout en soulignant la vanité de toute chose. Donc Fluxus est un mouvement artistique d'art contemporain qui est né dans les années 60 et qui touche aussi bien les arts visuels que la peinture, la littérature, par la réalisation de concerts, de happenings. Alors je vais peut-être à chaque fois définir un peu les mots. Donc un happening, c'est des spectacles où la part de l'imprévu et de la spontanéité est essentielle. Donc il travaillait beaucoup à partir de ça, mais il faisait aussi des productions de livres, de revues et aussi la confection d'objets. Donc le Fluxus Art a été lancé par Georges Massuna, qui est un artiste, galériste et éditeur américain d'origine lituanienne, qui est né à Kaunas le 8 novembre 1931 et qui est mort à Boston le 9 mai 1978. Donc c'est lui qui en inventa également l'appellation. Fluxus participe aux questionnements soulevés par les formes d'art qui voient le jour dans les années 60 et 70, c'est-à-dire quel est le statut de l'œuvre d'art, d'abord est-ce qu'il y en a un, rôle de l'artiste, y a-t-il des artistes, place de l'art dans la société notamment. L'humour et la dérision sont placés au centre de la démarche et participent à la définition du fluxus comme un non-mouvement produisant de l'anti-art, ou plutôt un art distraction. Donc déjà, tout de suite, on se situe effectivement dans un mouvement d'art contemporain très, très revendicatif et très révolutionnaire par rapport au marché de l'art. Voilà. Donc la genèse du mouvement, donc, entre 1958 et 61, de jeunes artistes influencés par le mouvement Dada et par l'enseignement de John Cage, voilà, donc lui-même inspiré par la philosophie zen et les ready-man de Marcel Duchamp. Donc un ready-man, en fait, c'est un objet ou un ensemble d'objets sans aucune élaboration, il n'y a pas d'intervention de quelqu'un, qui est élevé au rang d'objet d'art par le seul choix d'un artiste. Donc c'est tout à fait la définition, effectivement, de Marcel Duchamp, voilà, la pissotière.
Voilà, l'urinoir.
L'urinoir, voilà. Donc ces artistes effectuèrent un minutieux travail de sape des catégories de l'art par un rejet systématique des institutions et une profonde remise en cause de la notion d'œuvre d'art. À la New School for Social Research, alors comment fait le, excusez mon accent, John Cage proposé en 1958 un cours intéressant aussi bien les musiciens que les artistes, que les écrivains. Et c'est dans ce laboratoire que se rencontrèrent plusieurs des initiateurs du mouvement Fluxus, dont Georges Brecht ou encore Yoko Ono, entre autres. Georges Brecht proposa en 1958 un projet visant à supprimer les frontières entre toutes les formes artistiques de la vie, mais aussi entre les sciences et les techniques. Donc, il cassait vraiment tout, quoi. Hein. Georges Marcunas, inspiré par Yoko Ono, organise alors dans sa galerie AG des événements concernant le graphisme. Alors, un événement en art contemporain, ça désigne une œuvre qui se caractérise par le fait que c'est le spectateur qui la constitue, c'est-à-dire que le spectateur participe, et je vous donnerai un exemple à la fin de ma lecture. Alors, concernant le graphisme, et c'est sur ce programme de l'un de ces événements que l'on peut lire pour la première fois en 1961 le mot « fluxus ». Donc, Fluxus organise de nombreux... Alors, ils s'étendent, hein, ce mouvement, et ils vont organiser de nombreux festivals européens, tant en Allemagne, en Suisse, aux Pays-Bas. L'argent manquant, bien sûr, parce que c'est quand même très novateur comme démarche, et il y avait, bon, j'imagine, peu de participants. L'argent manquant, les festivals s'arrêtent, et naît une revue qui s'appelle alors C5TRE, en lettres majuscules, dont 6 numéros sortiront entre 64 et 66 avant de s'espacer. Georges Marcunas, à ce moment-là, politise encore plus le mouvement et veut purger le monde de la maladie bourgeoise, de la culture intellectuelle, professionnelle et commercialisée. Ce fut là un des grands conflits qui agita Fluxus et conduisit plusieurs de ses membres à se dissocier du groupe. Alors, si vous voulez connaître tous les artistes qui ont participé à ce mouvement, le mieux est d'aller sur Google, dans Wikipédia, vous avez toute la liste, parce que ce sont des gens qui, pour beaucoup, sont restés inconnus. Ils sont très, très nombreux, en fait. Donc, les grands concepts de Fluxus, d'abord, ils se caractérisent par la difficulté qui existe à le définir. Parce que effectivement, il y a peu de textes théoriques concernant ce mouvement. L'un des seuls étant le manifeste de Georges Marcunas, mais qui est loin d'être le manifeste du surréalisme de Breton, et bon, sur lequel on a une page Mais bon, on a, enfin, je veux dire, ça définit pas grand chose, quoi. Alors, Georges Brest, lui, a tenté de résumer les aspirations du Fluxus. Il a écrit « Il n'y a jamais eu aucune tentative d'accord sur des buts ou des méthodes ». Donc on est quand même bien sous le mouvement Dada et un peu loin des surréalistes, en fait. Hein. Ce sont des individus avec quelque chose d'indescriptible qu'ils ont en commun, qui se sont simplement et naturellement réunis pour publier et jouer leurs œuvres. Et ils se sont bien amusés, on va dire. Ils ont bien raison. Mais cependant, deux traits communs entre toutes les œuvres se dégagent. La provocation néo-dada et les références fondatrices aux expériences musicales de John Cage. Le but avoué de ce mouvement artistique était de supprimer toute frontière entre l'art et la vie. Pour eux, tout est art. Les œuvres Fluxus ne sont pas formelles, ni esthétisées, et ne sont même pas considérées comme des œuvres. L'accent est également mis sur la mise en scène du banal, du quotidien, de tout ce qui ne serait pas de l'art. On ne crée pas un art beau, mais on met en œuvre un style de vie qu'ils ont tous respecté pendant toute leur vie, ce qui est assez... assez incroyable, en fait. Voilà. En intégrant le public à la performance artistique, donc la performance, c'est une œuvre d'art ou un échantillon qui est créé par des actions menées par l'artiste ou par d'autres participants. Donc les artistes du Fluxus font beaucoup de performances et ils veulent, à partir de ça, supprimer l'idée d'un art qui se donne à voir, comme dans les musées, et mettre plutôt en avant l'idée d'un art qui s'expérimente et se vit. Et ils insistent également beaucoup sur le côté éphémère de l'œuvre. C'est bien pour ça qu'aujourd'hui on a un peu du mal à les retrouver, en fait, aussi, parce qu'ils ont, enfin, il n'y a rien qui a résisté, quoi, en fait. Mais c'est ainsi qu'ils l'avaient voulu, voilà. Alors, un exemple parmi bien d'autres, par exemple, c'est le restaurant Spoerry. Donc, c'est un artiste qui s'appelle Daniel Spoerry et qui a toujours eu, pour lui, c'est une vieille histoire, le rapport entre la nourriture et la cuisine. Voilà. Donc, en 63, à Paris, il transforme la galerie J, qui est rue Montfaucon, en restaurant. Et il y expose 723 ustensiles de cuisine. Déjà, c'est intéressant. On est bien sur les ready-made du champ, effectivement. Et le chef, il s'intitule chef, donc, il cuisine lui-même des dîners différents pour 20 à 30 personnes au cours des 12 soirées consécutives. D'autres artistes participent au restaurant et on retrouve entre autres Robert Filliou, qui est une figure aussi majeure du Fluxus Art, on le retrouve, bah, lui, à la plonge, en fait. Le service est assuré par des critiques d'art, comme Michel Ragon, selon le principe qu'un critique d'art doit être le lien entre l'artiste et le public, donc qui fait le service, en fait. On peut ainsi, et puis c'est leur façon de faire, hein, entre autres à Michel Ragon, on peut ainsi prendre à la lettre, au pied de la lettre, les expressions « servir la soupe » ou « monter la mayonnaise » qui définissent assez justement la fonction de certains rédacteurs de catalogues, apologie pontifiante et si dénuée d'humour. Donc si vous voulez aller plus loin sur ce mouvement qui est quand même assez extraordinaire, même si on a un peu du mal à le suivre et à le retrouver, donc moi j'ai lu un livre qui s'appelle « Robert Filliou, Nationalité poète » de Pierre Tillman aux éditions des Presses du Réel en 2015 et qui est un livre absolument fantastique parce qu'en fait non seulement on a la vie de Robert Filliou mais on a la vie de tout le mouvement Fluxus et de tout ce qu'ils ont fait en fait et c'est, bon, ça permet un peu d'approfondir tout ça. Voilà.
Merci Michel. Il y a peut-être aussi d'autres façons d'approfondir, c'est peut-être de voir un peu dans les archives de Michel Ragon, s'il n'y a pas des documents qui concernent cette période ou des articles peut-être de presse, ça peut peut-être se travailler, ça pourrait être peut-être utile dans le travail à venir qu'on s'est donné au niveau du CLOPS, du Cercle culturel de littérature ouvrière et paysanne. Enfin, je pense que ça peut être intéressant.
Ah oui, oui, tout à fait. La difficulté, c'est que, bon, comme c'était des événements, ils écrivaient rien, ils faisaient les choses, ils les vivaient.
Ils n'en faisaient pas des vidéos.
Ils n'en faisaient pas des vidéos. Ça existe toujours. Ils n'en faisaient pas des plaquettes. Et en fait, bon, oui. Alors peut-être qu'on peut arriver à retrouver. La preuve, c'est que Pierre Tillman a bien réussi à retrouver ça quand il parle de Robert Filliou et de Daniel Spoerry. Mais bon, voilà. Mais bon, oui, on va essayer.
Je le voyais par rapport à c'est notre, je le voyais par rapport à Michel Dragon, parce que comme il y a des archives assez fournies,
oui.
Je pense que peut-être. Il y a des choses, parce qu'il y a des choses sur l'urbanisme, il y a des choses sur l'architecture, il y a, je veux dire, la peinture. Il est possible que dans ces activités de critique d'art, on retrouve quelque chose. Donc, c'est une piste, hein, parmi d'autres. Mmh. Alors, on va donc... merci, Michel, pour cette intervention. J'ai oublié tout à l'heure, en remerciant Thierry, de rappeler, de souligner, d'informer qu'il sera présent dans l'Aisne, à Laon, à la librairie L'Étoile Noire, c'est rue Saint-Jean, hein, c'est pas loin de la cathédrale, le 26 septembre à 19h30. Voilà. Non, je dis pas loin de la cathédrale, parce que je sais qu'il y a un certain nombre de gens bien pensants et bien croyants que cette librairie située sur la rue piétonnière, dans le centre-ville, je sais que cette librairie L'Étoile Noire... animé par les militants de la Fédération anarchiste, gêne beaucoup de monde là-bas. Voilà, donc le 26 septembre, 19h30, Thierry Maricourt sera Picard. Alors, l'actualité, nous avons terminé par quelques informations générales. Donc, normalement, nous sommes, en tant que cercle culturel de littérature ouvrière, paysanne et sociale et de la revue Fragments, nous serons au Salon des Revues, je crois que c'est au Blanc Manteau de mémoire, le 13, 14 et 15 octobre. Hein. Nous avons un tout petit stand, parce que c'est assez chéreux là-dedans, mais c'est la troisième année que nous allons participer, et à chaque fois nous avons des contacts, et c'est assez positif. De même que nous avons fait ce week-end avec notamment toute l'équipe de Fragments qui se situe dans le Val de Loire. Nous avons fait le salon de Vendôme pendant deux jours, le samedi dimanche, c'était le dernier week-end. Et il y a eu moins de monde à cause de la chaleur. C'était en plus dans une espèce de salle verrière, mais on a eu là encore de bons contacts et des échanges. Et on avait une table de presse avec pas mal d'ouvrages de littérature ouvrière et sociale, et y a un écho certain, même s'il y avait moins de monde, et on comprend, hein, c'est un peu quelque chose qu'on rencontre partout en ce moment, avec ces fortes chaleurs, les gens se déplacent un peu moins. Voilà, donc ça c'est, et deuxième information, avant de conclure pour aujourd'hui, normalement, hein, courant octobre, réédition du livre de Michel Dragon. Nous sommes 17 sous une lune très petite. Livre qui est paru en 1968, hein, et que les éditions Prolitz, que nous avons créées en tant qu'association, ben, ce sera notre deuxième ouvrage. Hein, le premier était celui de François Lebert, qui s'appelait Ligne de front, qui s'appelle toujours Ligne de front. Et il devrait être disponible donc dans les le mois de, normalement pour le salon des revues on devrait l'avoir. Voilà ça, et on prépare aussi donc un colloque consacré à Michel Dragon et un numéro spécial ultérieur de cette revue. Voilà, vous pouvez nous contacter par courriel en écrivant à clops clops@orange.fr. Et en nous écrivant aussi à Clops, 79 rue du Docteur Roux, 95 130 Franconville, ou bien en écrivant à l'émission « Et pourtant, elle existe, cette littérature », à l'adresse de Publico, 145 rue Amelot, Paris 75 011. Alors, je remercie toutes les personnes qui ont participé à cette émission, et en particulier Thierry Maricourt, et... Nous allons maintenant nous quitter avec Graham White,
qu'as-tu appris à l'école ?
Qu'as-tu appris à l'école, mon fils, à l'école aujourd'hui ? Qu'as-tu appris à l'école, mon fils, à l'école aujourd'hui ? J'ai appris qu'il ne faut mentir jamais, qu'il y a des bons et des mauvais, que je suis libre comme tout le monde, même si le maître parfois me gronde. C'est ça qu'on m'a dit à l'école, papa, c'est ça qu'on m'a dit à l'école. Qu'as-tu appris à l'école, mon fils, à l'école aujourd'hui ? Qu'as-tu appris à l'école, mon fils, à l'école aujourd'hui ? Que les gendarmes sont mes amis et tous les juges très gentils, que les criminels sont punis pourtant, même si on se trompe de temps en temps. C'est ça qu'on m'a dit à l'école, papa, c'est ça qu'on m'a dit à l'école. Qu'as-tu appris à l'école, mon fils, à l'école aujourd'hui ? Qu'as-tu appris à l'école, mon fils, à l'école aujourd'hui ? Le gouvernement doit être fort, a toujours raison et jamais tort. Nos chefs sont tous très forts en thème et en élit toujours les mêmes. C'est ça qu'on m'a dit à l'école, papa, c'est ça qu'on m'a dit à l'école. Qu'as-tu appris à l'école, mon fils, à l'école aujourd'hui ? Qu'as-tu appris à l'école, mon fils, à l'école aujourd'hui ? J'ai appris que la guerre n'est pas si mal, qu'il y en a des grandes et des spéciales, qu'on se bat souvent pour son pays, et peut-être j'aurai ma chance aussi. C'est ça qu'on m'a dit à l'école, papa, c'est ça qu'on m'a dit à l'école.
L'infâme bricoleur faisait en amateur des bombes atomiques. Sans avoir jamais rien appris, c'était un vrai génie, question travaux pratiques. Il s'enfermait toute la journée au fond de son atelier pour faire ses expériences. Et le soir il rentrait chez nous et nous mettait en transe en nous racontant tout. Pour fabriquer une bombe, mes enfants, croyez-moi, c'est vraiment de la tarte. La question du détonateur se résout en un quart d'heure, c'est de celle qu'on écarte. En ce qui concerne la bombache, c'est pas beaucoup plus vache, mais une chose me tourmente, c'est que celle de ma fabrication n'ont qu'un rayon d'action de 3,50 m. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Il a bossé pendant des jours, tâchant avec amour d'améliorer le modèle. Quand il déjeunait avec nous, il dévorait d'un coup sa soupe au vermicelle. On voyait à son air féroce qu'il tombait sur un os, mais on n'osait rien dire. Et puis un soir pendant leur part, la tonton qui soupire et qui s'écrie comme ça. À mesure que je deviens vieux, je m'en aperçois mieux, j'ai le cerveau qui flanche. Soyons sérieux, disons le mot, c'est même plus un cerveau, c'est comme de la sauce blanche. Voilà des mois et des années que j'essaye d'augmenter la portée de ma bombe. Et je ne me suis pas rendu compte que la seule chose qui compte, c'est l'endroit où ce qu'elle tombe. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Sachant proche le résultat, tous les grands chefs d'État lui ont rendu visite. Il les reçut et s'excusa de ce que sa cagna était aussi petite. Mais sitôt qu'ils sont tous entrés, il les a enfermés en disant « Soyez sages ». Et quand la bombe a explosé, de tous ces personnages, il n'est plus rien resté. contente devant ce résultat, ne se dégonfla pas et joua les andouilles. Au tribunal, on l'a traîné devant les jurés, le voilà qui bafouille. Messieurs, c'est un hasard affreux, mais je jure devant Dieu, quand mon âme et conscience, en détruisant tous ces tordus, je suis bien convaincu d'avoir servi la France. On était dans l'embarras, alors on le condamna, et puis on l'amnistia. Et le pays reconnaissant, les luttes immédiatement, chef du gouvernement.
Bonjour à toutes les auditrices et tous les auditeurs de Civis Pacem, l'émission de l'Union Pacifiste sur Radio Libertaire. Aujourd'hui, nous serons en compagnie de Léo Walter. Léo Walter est député NUPES de la deuxième circonscription des Alpes de Haute-Provence. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas bien la Provence, je précise les noms de quelques villes de ce département. Je voudrais citer d'abord Manosque, la ville natale de Jean Giono, Sisteron, connue pour le poète Paul Arène, et Barcelonnette, ville connue aussi pour les habitants qui sont partis faire fortune au Mexique dans la première moitié du XIXe siècle. J'ai rencontré Léo Walter le 3 août 2023 à Fort-Calquier, au siège du député situé à la place qui porte le nom de Martin Bray, nom d'un célèbre résistant de la région, fusillé le 18 juillet 1944 dans ses 46 ans à Signes dans le Var. Léo Walter s'est affronté en 2022 à l'ancien maire de Fort-Calquier et ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, et il l'a battu. Ancien objecteur de conscience, Léo Walter a pris à l'Assemblée nationale une position nette contre le Service national universel, le SNU, et cela ne pouvait bien sûr qu'intéresser les auditrices et les auditeurs de Civis Pacem. Alors, Léo Walter, nous sommes dans votre permanence de député à Fort-Calquier. Donc, Fort-Calquier, c'est... Mais on sait aussi que vous êtes un député de la NUPES, il faut quand même le préciser. Que vous avez été élu, alors, moi je vois le 19 juin 2022, mais enfin vous avez pris vos fonctions, je crois, quelques jours après. Et puis que là, surtout, vous avez battu le ministre de l'Intérieur, Castaner. Alors on vous appelle le tombeur de Castaner, c'est vrai ça?
Oui, oui, c'est le surnom effectivement qu'on m'a donné. Alors j'espère laisser une autre trace qu'uniquement celle-là, mais le fait est que cette défaite...